Merci.
Voilà, c'est un honneur, un privilège et une joie aussi, une grande joie d'avoir avec nous pour tout le week-end Henri Blocher. Voilà, merci de votre présence pour ces enseignements sur la prière. Nous avons commencé hier avec beaucoup de joie et beaucoup de questions et voilà, c'est la suite qui va nous être apportée ce matin.
Comme annoncé, nous nous concentrons ce matin sur la question « Quoi ou que ?» Que fait prier ? En d'autres termes, quelle est l'opération à laquelle correspond la prière ? Comment obtient-elle son effet ? Quelle est l'efficacité qu'on peut lui attribuer ? C'est la question sur laquelle nous nous concentrons. Alors elle n'est pas totalement séparable de la question que nous avons abordée hier du pourquoi, mais elle s'en distingue cependant. Et nous lisons deux passages qui nous éclaireront au moins à certains égards sur le sujet. Un passage qui est le passage clé dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est question de l'efficacité de la prière, dans l'épître de Jacques, au chapitre 5. Et puis nous lirons ensuite, comme annoncé, un passage de la Genèse, pris du cycle de l'histoire d'Abraham. Je lis donc tout d'abord dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, les versets 13 à 18. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en faisant sur lui une application d'huile au nom du Seigneur. Le souhait de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Reconnaissez donc vos péchés les uns devant les autres et souhaitez-vous du bien les uns aux autres pour que vous soyez guéris. La prière du juste, mise en œuvre, a beaucoup de force. Élie était un être humain de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Puis nous lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 24 un passage qui ne met pas en scène directement Abraham. Ce passage de Genèse 24 nous rapporte d'abord que le patriarche, excusez-moi, mon petit papier, il tombe, merci, que le patriarche Abraham, ne voulant pas qu'Isaac prenne femme parmi la population indigène de Canaan, ce qui aurait dissous dans la masse païenne la lignée élue, a choisi son serviteur de confiance, certains l'appellent Eliezer parce qu'il y a un serviteur de confiance qui est mentionné au chapitre 15 comme l'héritier si Abraham n'avait pas eu de fils, mais nous ne sommes pas sûrs que ce soit le même, malgré tout. Donc Abraham appelle son serviteur de confiance et l'envoie dans son pays d'origine, dans sa famille, parmi ses frères, cousins, et ce serviteur, au verset 10, prit 10 chameaux parmi les chameaux de son maître, et il partit avec tout ce que son maître possédait de meilleur. Il se rendit en Mésopotamie à la ville de Nahor. Il fit agenouiller les chameaux à l'extérieur de la ville, près d'un puits, le soir, à l'heure où les femmes sortent pour puiser de l'eau. Alors il dit, « Seigneur, Dieu d'Abraham, mon maître, accorde-moi, je te prie, de faire une heureuse rencontre aujourd'hui et agis avec fidélité envers Abraham, mon maître. Je me tiens près de la source et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive » et qui répondra « Bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux » soit celle que tu as destinée pour Isaac, ton serviteur. Ainsi je saurai que tu as agi avec fidélité envers mon maître. » Il n'avait pas encore achevé que sortait Rebecca, la fille de Bethuel, fils de Milca, la femme de Nahor, frère d'Abraham. Elle avait sa cruche sur l'épaule. C'était une très belle jeune fille. Elle était vierge, aucun homme n'avait jamais eu de relation avec elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et la remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit « Donne-moi, je te prie, quelques gorgées d'eau de la cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'incliner sa cruche et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut pour puiser encore au puits. C'était presque une centaine de litres, hein, les chameaux, ça boit énormément. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme s'interrogeait en silence à son sujet, se demandant si le Seigneur allait faire aboutir son voyage. Alors il sort déjà des bijoux qu'il avait préparés pour cette jeune fille, lui demande s'il y a un lieu où passer la nuit, et elle dit « Mais oui, chez nous, bien sûr !» Et au verset 25 et 26, donc l'homme s'inclina et prosterné devant le Seigneur, il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Abraham, mon maître, qui n'a cessé d'être fidèle et loyal envers mon maître. Le Seigneur a conduit mes pas jusque chez les frères de mon maître. » Et vous connaissez la suite de cette histoire. Effectivement, Rebecca va devenir l'épouse d'Isaac, va repartir avec le serviteur, tous reconnaissant que c'est le Seigneur, l'Éternel, qui a agi en toute cette affaire. Le texte sur l'efficacité de la prière dans l'épître de Jacques est celui vers lequel on se tourne tout naturellement lorsque c'est le sujet à étudier. Il faut reconnaître qu'il y a cependant un petit inconvénient à recourir à ce grand passage. Il y a un problème de traduction, ou plutôt, certains semblent s'être achoppé à l'usage d'un des mots du verset clé. La prière du juste a beaucoup de force, et ne pas l'avoir traduit de la meilleure façon. Du coup, entre les versions bibliques qui circulent, que vous pouvez avoir entre les mains, il n'y a pas un entier accord. Avec la clause « La prière du juste a beaucoup de force », il y a un participe verbal que Louis II, que encore la Bible de Jérusalem, traduisent « fervente ». La prière fervente du juste a beaucoup d'efficace ou d'efficacité. C'est en suivant la vieille version latine de Jérôme à la fin du IVe siècle de notre ère que cette compréhension, je pense, a demeuré. Déjà Calvin, qui s'y connaissait en langues originales, c'était un très bon helléniste et un très bon hébraïsant, il était de première force. Déjà Calvin, dans son commentaire, dit « Mais ce n'est pas la bonne compréhension. Partout ailleurs, ce participe du verbe dans le Nouveau Testament a une autre signification Et Calvin dit très, très clairement, hein, Saint Jacques use d'un participe grec qui vaut autant comme œuvrant ou ayant efficace. La prière du juste a beaucoup de force, œuvrant, lorsqu'elle est mise en œuvre. Et c'est ce que nous trouvons traduit dans la Nouvelle Bible Seconde que j'ai lue. La prière du juste mise en œuvre a beaucoup d'efficace. La traduction œcuménique de la Bible, la TOB, comme on dit brièvement, a rendu la chose de la manière suivante. La requête d'un juste agit avec beaucoup de force. C'est en utilisant le verbe agir que la force de ce participe est rendue. La Bible du semeur, sentir avec une clause circonstancielle. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Je pense que c'est clairement le sens. Et nous allons voir une certaine conséquence quant à la compréhension de notre sujet dans quelques instants. Mais je commence par éliminer les fausses pistes, à barrer les fausses pistes, à éliminer les conceptions qui nous égarent, les imaginations qui prennent la tangente en l'affaire. L'interprétation païenne de l'efficacité de la prière, celle que Jésus, dans le passage que nous avons lu hier, a exclue, c'est que la prière agit en vertu d'une énergie propre, en vertu de propriétés qu'elle détiendrait et qui serait telle que, comme une cause produit son effet, elle obtiendrait ce qui est demandé. Lorsque nous tendons le bras vers une branche de pommier que nous tirons pour accrocher un fruit, la cause, c'est la dépense d'énergie physique que nous faisons, et l'effet, c'est que nous obtenons le fruit que nous avons désiré. Nous avons là une efficacité selon le schéma le plus simple. Il ne faut pas prendre l'efficacité de la prière selon un pareil schéma. C'est là l'égarement des païens qui s'imaginent qu'à force de prière, ils seront exaucés. Jésus nous dit clairement que c'est la conception que nous ne devons pas retenir, bien qu'elle soit la plus courante parmi les religions humaines. Ce n'est pas à force de prière, par la vertu de la répétition, comme s'il y avait un peu d'énergie dans chaque prière et qu'en multipliant le nombre des prières, alors on finissait par atteindre un certain seuil qui déclenche l'effet souhaité. Vous savez que dans le bouddhisme tibétain, on a été jusqu'au moulin à prière. On a des machines donc qui tournent par l'énergie hydraulique, je crois. Mais sur le tambour, on a collé des prières et des prières et des prières. Et puis alors, l'idée, c'est qu'en tournant ces prières, obtiennent leur efficacité. Voilà une pensée païenne conduite jusqu'à son terme le plus grotesque. Mais même dans la tradition chrétienne, il y a des traditions de répétition inlassable pendant des heures, de centaines, de milliers de fois de la même formule. Rien de tout ça dans la Bible. Nous n'avons absolument aucune caution qui justifie cette conception de la prière. Pas non plus l'intensité émotionnelle, pas non plus la ferveur. C'est là que la traduction que j'ai dénoncée il y a quelques instants du participe grec dans le verset de Jacques 5 égare beaucoup de gens. La prière fervente, il faut être fervent, il faut que ce soit effervescent, hein, c'est la même racine, le mot ferveur et le mot effervescent, que ça bouillonne, que voilà, plus on se sent excité dans la prière, plus on pense que la prière va être efficace. C'est très païen, ça, c'est tout à fait païen. Ce n'est pas cette intensité émotionnelle, qui peut être très variable, Dieu peut très bien accorder des sentiments très vifs dans le moment de dialogue avec lui. Mais ce n'est pas cela qui fait l'efficacité de la prière au moindre degré. Là, il faut être très au clair d'emblée, ce n'est pas cette qualité propre de la prière. Pas plus, bien sûr, qu'aucun mérite qu'on acquérerait en priant comme une œuvre pie. Ça aussi, je pense que nous le savons déjà, c'est une conception qui s'éloigne énormément des perspectives du Nouveau Testament. Ce n'est pas non plus, et là nous atteignons un champ de réflexion peut-être un peu miné, ce n'est pas non plus une émission d'énergie comme un rayon laser qui irait détruire les puissances mauvaises, les esprits malins dans les lieux célestes. Je crois qu'il y a des gens qui imaginent que la prière, c'est un peu ça. Voilà, on a de l'énergie spirituelle et on la projette contre. Alors, il est bien vrai que la prière se situe dans le contexte du combat spirituel, de la guerre que nous sommes en train de mener, le sachant clairement ou ne le sachant pas très clairement, selon le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens. Alors, la prière n'est pas présentée d'ailleurs comme une arme. Dans ce passage, il y a les armes défensives, le bouclier de la foi, il y a l'arme offensive de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et la prière accompagne tout ça. Mais c'est bien vrai que la prière entre dans le déroulement de cette guerre spirituelle. Mais nulle part, il n'est suggéré que la prière soit comme un missile chargé d'énergie qui soit dirigé vers l'esprit mauvais pour l'endommager ou le réduire à l'impuissance ou quelque chose comme ça. Nulle part nous n'avons cette présentation-là dans l'Écriture, et je crois que nous devons nous en garder soigneusement. Il est question un moment des manœuvres de Satan interférant avec la prière. Mais ce n'est pas de la manière que je viens d'exclure. Au chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens, dans les premiers versets, l'apôtre Paul conseille aux couples mariés, qui s'abstiennent de relations sexuelles pour la prière, d'un commun accord, c'est les deux conditions qu'il pose, de ne pas le faire trop longtemps pour que Satan ne vous tente pas par la tension que cela produit. C'est un conseil de sagesse pastorale que l'apôtre dispense là au début d'un Corinthiens 7. Satan peut profiter de la tension que l'abstinence va impliquer pour le couple si ça dure trop longtemps, et il va ainsi perturber la prière pour laquelle en principe, cette abstinence aurait été décidée. Vous voyez comment l'Écriture met parfois en relation l'activité du diable, mais ce n'est pas du tout selon le schéma du missile, comme je dis, que serait la prière. Parfois, la prière semble être un combat, mais un combat contre Dieu. Alors que dire à ce propos? Une dépense d'énergie dans un combat contre Dieu, selon le schéma du combat de Jacob avec l'ange de l'Éternel, l'ange du Seigneur, qui était le Seigneur lui-même, toute une nuit, selon le chapitre 32 de la Genèse. Oui, je crois que, comme l'a dit Luther d'ailleurs, Dieu se présente parfois comme notre adversaire. Comme s'il était notre adversaire. Cela semble un combat contre lui. Comme s'il ne voulait pas bénir et qu'il faille lutter pour qu'il bénisse. Comme s'il ne voulait pas notre bien et qu'il faille lui arracher en quelque sorte ce que nous demandons. Si on relit bien les passages en cause, je crois qu'on se rend compte que ce n'est pas du tout ça. Ce n'est que l'apparence. On le voit bien au chapitre 32 de la Genèse, le combat de Jacob. C'est celui qui lutte avec lui qui veut le bénir depuis le commencement. Et s'il y a toute cette lutte tout au long, de laquelle Jacob sortira blessé en même temps que béni, c'est qu'il fallait que Jacob soit transformé et que du tricheur qu'il était, il devienne prince avec Dieu, Israël. Il devienne celui qui aura le courage d'affronter Ésaü le lendemain. On a par exemple relevé cette différence. Avant cette nuit décisive, Jacob a prévu de faire passer avant lui tous ses troupeaux, tous ses serviteurs, ses femmes, etc. Puis lui, d'être le dernier à affronter le frère qui lui fait peur. Mais après cette nuit, au matin, c'est lui qui marche en tête et qui va rencontrer Ésaü. C'est le changement radical du vieux Jacob qui naît de nouveau en quelque sorte. Voilà ce que Dieu a voulu produire dans ce moment. En fait, c'est contre lui-même, contre toutes les chaînes charnelles qui le liaient, que Jacob a combattu. Il a lutté avec Dieu, mais Dieu luttant avec lui, pour lui, pour qu'il soit finalement béni. Alors, il peut sembler, parce que nous sommes retenus par tant de choses, que Dieu soit comme un adversaire, mais en fait, c'est sa pédagogie aimante qui fait que les choses se passent comme elles se passent. Et il y a un autre épisode qui le montre aussi de façon très claire dans la vie de Jésus. C'est l'épisode qui est raconté au chapitre 15 de l'évangile de Matthieu. L'affrontement apparent entre Jésus et la femme syrophénicienne, qui n'était pas donc juive, hein, et qui vient le supplier de délivrer sa fille. Et Jésus lui répond avec une dureté inouïe. Il la compare au petit chien, et en lui disant, le pain n'est pas pour les petits chiens. Nous aimons bien les petits chiens, mais au 1er siècle, au Moyen-Orient, ils étaient profondément méprisés. Vraiment, à comparer un petit chien, cette non-juive, c'était pour Jésus faire comme s'il se mettait dans le personnage du nationaliste juif le plus borné, le plus intolérant et qui méprisait cette femme. Mais vous savez comment on m'a répondu, mais les petits chiens, ils mangent les miettes. Il me suffit d'une miette de ce que tu peux donner. Et Jésus a bien sûr délivré, mais tout cela, il l'avait mis lui-même, je dirais, en scène. C'est clair depuis le début, et je suis sûr que si elle a persévéré comme elle a persévéré, c'est qu'elle l'a vu dans le regard de Jésus d'emblée. Elle avait quelque idée, de toute façon, de son message. Elle avait compris que Jésus se dressait comme un adversaire face à elle, mais pour l'amener à cet extrême de la foi humble et hardie à la fois, pour lui faire accéder à une noblesse qui nous pousse aujourd'hui encore à l'admirer avec action de grâce, cette femme. Jésus a fait advenir en se comportant comme il l'a fait, non pas du tout vraiment comme son adversaire, mais comme celui qui la bénissait le plus profondément. Donc, il arrive que la prière ressemble à une lutte avec Dieu, mais au fond, c'est Dieu qui lutte pour nous, en nous, avec nous. Donc, pas question d'attribuer l'efficacité de la prière à une énergie que nous déploierions et qui serait propre à la prière. Pas question non plus de réduire à l'effet sur nous, à la pédagogie de Dieu, cette efficacité de la prière, parce que à partir du moment où on a bien vu la première vérité, on risque de tomber dans cette autre seconde erreur. Dire, bon, ben voilà, Dieu fait une œuvre si précieuse en nous par le moyen de la prière que ce doit être là l'efficacité. La prière nous change, comme Jacob en Israël, la prière nous change et voilà qui est son rôle. Ce rôle, il est précieux, ce rôle, nous avons à en rendre grâce, mais ce n'est pas le seul et ce n'est pas l'efficacité propre de la prière, celle dont parle l'épître de Jacques. L'efficacité de la prière, c'est que, après qu'Élie a prié, il n'a pas plu pendant 3 ans et demi, une sécheresse épouvantable sur le pays. L'efficacité de la prière, c'est qu'il a prié et qu'il s'est remis à pleuvoir. L'efficacité de la prière, c'est qu'elle a réellement changé les choses. L'efficacité de la prière, dans le contexte de l'exhortation de Jacques, c'est aussi le pardon mutuel des péchés dans l'Église et la guérison, accompagnée en particulier du symbole de l'onction d'huile. Ce sont des choses distinctes du changement intérieur de celui qui prie. La prière change les choses. Dans l'histoire du serviteur d'Abraham, la prière obtient cet exaucement, un enchaînement de circonstances dont certaines étaient très improbables. Qu'une jeune fille accepte de puiser tellement d'eau pour une dizaine de chameaux qui avaient traversé le désert, c'était vraiment là une expression de générosité hospitalière tout à fait exceptionnelle. Et tout cet enchaînement de circonstances, voilà ce qui exauce la prière du serviteur d'Abraham. La prière a une efficacité qui se lie dans le concret de la vie et pas seulement dans le secret des attitudes intérieures de celui qui prie. Mais alors comment comprendre ? Comment comprendre que la prière ait cette efficacité sur les choses, qu'elle change les choses, alors même qu'elle ne peut pas prétendre être une émission d'énergie qui, à la manière du bras qui cueille la pomme, obtient son effet. Je pense qu'on peut dire que la réponse est très très simple. En un sens, elle crève les yeux, on ne la voit pas tellement elle est simple. La prière est efficace comme prière. Qu'est-ce qu'une prière ? La prière, c'est la demande de quelqu'un qui ne peut pas à quelqu'un qui peut. Et ce quelqu'un qui peut est incliné à agir, il est touché dans son vouloir et il fait ce que la personne qui priait ne pouvait pas faire. L'efficacité de la prière, c'est qu'elle touche le cœur de Dieu qui agit conformément aux vœux de la personne qui prie et qui ne pouvait rien obtenir par elle-même. L'efficacité de la prière, c'est que Dieu agit. Et Dieu change les choses alors selon sa bonté. L'efficacité de la prière, Jésus l'illustre, vous vous rappelez bien cette image, par la réponse du papa à la demande de ses enfants. S'ils demandent du pain, même méchants comme sont les pères humains que nous sommes, même méchants, un père va donner non pas une pierre, mais du pain. Le cœur du père est touché parce qu'il aime son enfant, est touché par la requête, et la requête aboutit, la prière est efficace. Pour cette raison, selon ce schéma très simple, c'est le schéma fondamental de l'efficacité de la prière. La prière agit avec une efficacité maximale, c'est la force la plus puissante sans doute dans l'univers parce qu'elle touche le cœur de Dieu et que Dieu agit. Qu'il plaît à Dieu d'agir dans sa tendresse et fidélité de Père. Voilà, je pense, ce que clairement nous disent les textes et l'auteur de l'épître de Jacques souligne que Élie était un homme aussi faible que nous le sommes tous en tant qu'homme. La formule qu'il emploie a une nuance de même nature que nous, de même nature vulnérable, qui ne peut pas ignorer les pressions de l'environnement, qui est affecté par les circonstances. Élie, comme nous, était un homme faible, limité, vulnérable. Mais la prière d'Élie a eu tout son effet parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu a agi conformément à la prière qu'il avait lui-même encouragée. C'est là la réponse fondamentale, je n'en doute pas et je m'en porte en quelque sorte témoin devant vous, mais il y a trois précisions qu'il faut ajouter, trois explications qu'il faut quand même aussi donner en accompagnement. La première, c'est qu'il y a bien dans la pédagogie divine, dans le déroulement de l'œuvre de sa grâce, délégation d'autorité. Le Seigneur peut donner autorité pour accomplir telle ou telle chose à ses serviteurs. Cette délégation d'autorité, ce n'est pas la prière. C'est distinctement autre chose. Le plus souvent, d'ailleurs, dans l'Écriture, c'est pour chasser les esprits impurs, pour l'exorcisme, que Dieu donne cette autorité. Donc, oui, ça existe aussi, mais ce n'est pas la prière. Et d'autre part, c'est une autorité qui reste déléguée et dépendante, une autorité qui ne nous autorise pas à nous balader comme des petits seigneurs. Ça doit être bien clair. Et une spiritualité qui flatte le désir charnel d'avoir la vedette et d'exercer la domination, je crois que nous devons prendre garde de ne pas nous laisser glisser de ce côté-là. Mais enfin, ça existe, je ne le dis pas et je voulais le préciser. Deuxième précision, remarque annexe, il arrive que le Seigneur ne donne pas ce que son enfant lui a demandé. Cela arrive en particulier quand la demande n'était pas la mieux ciblée et que le Seigneur donne mieux que ce qui était demandé. Si l'enfant demande des carambars, le père ne va pas donner une pierre, mais il va donner du pain. Et peut-être 5 fruits et légumes hein, aussi, selon la formule. Vous voyez le sens. Nos prières ont besoin d'être redirigées, et le Seigneur le fait parce qu'il nous donne souvent en réponse le meilleur. Ça fait partie de l'efficacité de la prière, même si ce n'est pas ce qui a été demandé tout précisément. Et alors là, on touche le point le plus sensible. Il arrive au Seigneur de donner le meilleur alors qu'il ne donne pas du pain. Cela arrive. La fin du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux est parfaitement claire à propos des héros de la foi de l'Ancien Testament. Certains ont obtenu des exaucements sensationnels, la victoire, la guérison, la résurrection même de leurs proches, et fermé la gueule des lions par la foi. Et d'autres, ils n'ont pas obtenu ce qui était promis. Ils ont été traités inhumainement, errés en haillons, dénués de tout. Parce que Dieu avait en vue quelque chose de meilleur de meilleur. Voilà ce que nous enseigne l'Écriture de manière tout à fait nette. Dieu peut ne pas répondre à une prière à laquelle pourtant son amour de Père le porterait à répondre parce qu'il a envie quelque chose de meilleur, parce que dans sa sagesse infiniment supérieure, il a un autre rôle, une autre fonction, un autre bien, un bien éternel qui l'attache à cette absence de réponse particulière sur le point précis qui était celui de la prière. C'est pour ça que nous prions. Si tu veux, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Le Seigneur Jésus n'avait pas formé une volonté contraire à la volonté de Dieu en lui-même. Mais il y avait en lui, parce qu'il était pleinement humain, le désir spontané de survivre et de ne pas subir la souffrance atroce qui devait être la sienne dans les heures qui ont suivi. Et le Seigneur Jésus, donc, dit, s'il est possible que cette coupe, cette destinée, ce sort me soit épargné, Seigneur, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a conformé son vouloir à celui de Dieu, et parce que Dieu avait en vue pour lui quelque chose de meilleur. De meilleur que la survie du Fils Jésus. Quelque chose de meilleur parce que nous lui sommes associés dans ce meilleur et qu'il nous aime. Le grain de blé devait mourir pour devenir une moisson, une multitude. C'est cela qui était le meilleur. Et en vue de la joie qui lui était proposée de nous avoir à lui, Jésus a souffert la croix. Il a accepté que sa demande, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, ne soit pas exaucée comme ça. Donc cela, il faut le reconnaître. Et troisième précision, cela joue en particulier pour la guérison physique dans les cas de maladie. Et il faut que je le précise parce que le texte de l'épître de Jacques, si on le lit tout seul, si on l'isole du reste du Nouveau Testament, pourrait donner l'impression que c'est automatique, que Dieu garantit la guérison physique à quiconque prie avec foi, et avec onction d'huile ou non. C'est, de toute façon, c'est la prière de la foi qui sauve le malade. Je crois que c'est la guérison physique qui est ici en cause. Certains commentateurs ont essayé de penser que c'était la résurrection finale, etc., mais je ne pense que c'est bien la guérison physique. Mais le reste de l'Écriture, il faut lire chaque passage à la lumière de l'ensemble de l'Écriture, nous montre que ce n'est pas garanti à tout coup que le Seigneur peut avoir quelque chose de meilleur en vue, comme pour les héros de la foi d'Hébreu 11, que cela... Le Seigneur le seul le sait, et qu'ainsi nous prions, si tu veux, Seigneur, que ta volonté soit faite. Cela me semble clair selon les enseignements globaux de l'Écriture, mais si quelqu'un veut poser une question cet après-midi, il devrait y avoir un peu de temps aussi pour en reparler éventuellement cet après-midi. Ce sont là trois précisions qui nous permettent non pas d'atténuer, mais au contraire de renforcer l'affirmation que l'efficacité de la prière, c'est que le cœur de Dieu est touché et qu'il donne le meilleur parce qu'il est le Dieu tendre et fidèle. Mais il y a encore un plus que finalement je dois mettre en évidence. Dans l'histoire du serviteur d'Abraham, Genèse 24, vous l'avez remarqué, c'est toujours le « Toi, Seigneur, de mon maître Abraham ». C'est toujours au nom d'Abraham que le serviteur prie. Il prie parce qu'il sait que Dieu est touché par ce qui concerne Abraham. Abraham, c'est l'ami de Dieu qu'il a élu, il reçoit ce titre d'ami de Dieu trois fois dans l'Écriture. C'est donc au nom d'Abraham que parle le serviteur. Nous prions aussi comme fils et filles d'Abraham, ceux qui ont une foi dont il a été l'initiateur. Mais nous prions encore bien davantage au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus comme les frères et sœurs de Jésus. Et c'est ce nom de Jésus qui ne peut absolument pas être autre chose que la force la plus puissante pour le cœur de Dieu. Quand le Père entend que c'est au nom de son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus, que nous prions. Nous avons encore en quelque sorte la signature de Jésus. Mais le cœur de Dieu ne peut que fondre de tendresse et nous donner le meilleur. Comme à Jésus, en Jésus, et c'est cela même qui fait l'efficacité de la prière. Amen.
Merci. Nous arrivons au terme de notre culte et je ne doute pas que la prédication suscite ou va susciter en vous peut-être des questions que vous pourrez poser au cours du repas ou encore cet après-midi. Je vous invite à vous lever pour clôturer, avant qu'on chante juste le refrain de « Comment te dire merci ». Donc je vous invite à vous lever et, comme texte d'envoi, je lis les versets suivants du chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Donc au verset 23, « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie. Car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. » Je crois que ce week-end est particulièrement l'occasion de mettre en pratique ce verset. Alors on va chanter « Comment te dire merci ?» Sans frustrer les musiciens, on va chanter que le refrain, mais on peut le reprendre deux fois.
Je vais vous dire deux petits mots pour la suite de notre programme. Je vais vous inviter à pas trop tarder ici dans la chapelle, de vous diriger directement au réfectoire. Pour ceux qui n'ont pas dormi, qui sont arrivés peut-être directement à la chapelle, Vous avez la petite porte qui est juste là. Certains d'entre vous ont reçu des codes. Mais en tout cas, je vais déjà m'avancer pour faire le code, ouvrir la porte. Donc, de vous diriger directement au réfectoire, parce qu'il faudra faire la queue. On est nombreux. Donc, on va déjeuner de midi à 13h30. Ceux qui finissent, ne tardez pas dans la salle de déjeuner. Vous pouvez aller prendre une tisane rapidement pour qu'on se retrouve à 13h30 dans l'autre salle qui est à l'intérieur. Vous allez voir de toute façon les personnes qui étaient là déjà hier dans cette salle pour la suite des études de M. Blocher. Donc, tout de suite le déjeuner. À 13h30, pendant une heure, le troisième temps d'études. Et à 14h30, on va se retrouver à l'extérieur pour la suite des activités ludiques ensemble jusqu'à 16h. Et je vais demander aussi à deux volontaires pour préparer le goûter de cet après-midi à partir de 16h pour qu'on puisse prendre le goûter ensemble en toute convivialité, en toute fraternité. Voilà. Bon après-midi à tous.
Tout est enregistré, hop.